France Inter. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un monde nouveau. Chaque samedi, c'est une heure ou presque à l'affût des signaux de transformation de nos sociétés pour mieux comprendre l'époque et éclairer ce qui se dessine demain. Cette semaine, penchons-nous sur une tendance, une trend, comme on dit dans la langue de TikTok, qui a déferlé sur les réseaux et déclenché une polémique.
Je suis une maman gaie tout sourire. Bien sûr que quand je vous cherchais à l'école et que vous me donnez vos dessins en pagaille, vous savez très bien que ça finit à la poubelle. Voilà. Tous les jours des dessins à foison, il y en a marre, il y en a assez, il y en a beaucoup plus. Poubelle.
Poubelle. Cette vidéo a dépassé les 2,4 millions de vues et des dizaines de milliers d'autres ont afflué pour défendre la méthode Ghetto-Sori, contraction d'éducation du ghetto et de pédagogie Maria Montessori. Une manière humoristique de déculpabiliser les mères, mais ça marche aussi pour les pères, tiens, notez, qui ne correspondent pas au canon du parent redoublant de patience et de bons petits plats pour élever ses enfants. Une manière aussi de répondre au modèle d'éducation positive qui sature les réseaux. Mais dans le sillage de Ghetto-Sori sont apparues des vidéos qui, elle, sous couvert d'humour, banalise des violences éducatives ordinaires punies depuis 2019 par la loi française. Que raconte ce backlash de l'éducation positive? On en parle dans un instant. On va s'intéresser aussi à cette scène inédite.
La scène qui s'est déroulée dans le bureau présidentiel est étonnante. Elon Musk s'exprime, son fils de 4 ans sur les épaules. Donald Trump écoute. Devant les journalistes et après avoir reposé son fils, l'homme le plus riche du monde et patron du département de l'efficacité gouvernementale a exposé son programme.
Conférence de presse d'Elon Musk dans le bureau ovale de la Maison Blanche sur sa politique d'efficacité gouvernementale et de coupes budgétaires avec son fils de 4 ans, tantôt sur ses épaules, tantôt en train de se curer le nez. L'enfant, qui a longtemps été un outil de communication politique, devient-il un instrument de diversion politique comme les autres? Ce sera une des questions posées dans la deuxième partie de cette émission. Bienvenue dans un monde nouveau.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Je pratique la pédagogie Ghetto-Sori avec mon fils depuis sa naissance et aujourd'hui, promis, il va très bien. On a remarqué que si l'enfant évolue dans un environnement un petit peu ghetto, il sera plus enclin à se débrouiller tout seul et à faire face à la vraie vie. Il doit respect et obéissance absolue à sa mère car elle n'est pas son égale ni sa camarade. Ici, pas d'activité spontanée, juste des services à rendre à maman parce que tant qu'ils sont là, autant qu'ils servent à quelque chose. L'enfant apprend avec l'expérience. N'hésitez pas à user de menaces, à hausser le ton, à menacer. Pour conclure, la pédagogie Ghetto-Sori allie débrouillardise, rap, discipline et amour.
Les principes de l'éducation Ghetto-Sori à l'instant par l'initiatrice de cette tendance, la tiktokeuse Jessica French Riviera, qui est avec nous en duplex de Nice ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bravo. Caroline Goldman, bonsoir. Vous êtes psychothérapeute spécialiste de l'enfance et de l'adolescence, autrice de Guide des parents d'aujourd'hui, publié chez Flammarion. Bonsoir.
Bonsoir Mathilde.
Nadège Erika, bonsoir. Vous êtes écrivaine. On conseille aux auditeurs votre premier roman percutant, Mon Petit, sorti en poche récemment chez HarperCollins. Et vous venez de signer un texte pour le média littéraire La Lettre Zola, où vous racontez votre expérience d'éducatrice à l'aide sociale à l'enfance. Bonsoir, on est ravis de vous retrouver.
Bonsoir Mathilde, merci.
Vous êtes venue aussi nous voir dans Nouvelle Tête dans le 7-10 de France Inter. Et Olivia Moore, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes humoriste après Mère indigne et égoïste. Vous jouez actuellement votre troisième spectacle. Oui, je sais.
Je sais, oui.
Commençons avec vous, Jessica French-Riviera. Vous êtes la tiktokeuse créatrice de contenu qui a lancé ce concept de maman Ghetto-Sori qui est devenu viral. Je vous disais bravo pour ça. La trend, elle s'est transformée, on en reparlera plus tard, dans des versions un petit peu plus hard, on va dire, et problématiques. Mais comment ça vous est venu?
Je scrollais tranquillement un après-midi sur TikTok et je suis tombée sur le compte d'une maman qui pratique l'éducation bienveillante. Et enfin, c'est ce qu'elle prône, tout au plus, avec des gros hashtags Montessori, alors que ça n'a rien à voir. Et je trouvais que c'était un contenu très, très culpabilisant pour les parents. Et je me suis dit, on va essayer de faire une parodie pour essayer de déculpabiliser les parents, montrer qu'on fait du mieux qu'on peut et essayer de relâcher un peu la pression... qu'on nous met tous les jours.
Et qu'on peut voir aussi donc, quand on scrolle sur les réseaux, il y a une prolifération de ces contenus. Caroline Goldman, je m'adresse à la psychothérapeute.
Ghetto Souris, c'est donc un néologisme qui est amusant, qui oppose deux univers opposés, la vie au ghetto et la méthode Montessori, mais qui n'est pas très fidèle à la réalité parce que la pédagogie Montessori, en fait, c'est une méthode d'apprentissage. Elle n'a pas grand-chose à voir avec les excès d'éducation positive qui, elle, parle plus de maturité affective et pulsionnelle que d'intelligence. La seule idée commune, c'est quand même de laisser l'enfant fonctionner à son rythme et selon ses affinités. Donc que l'adulte doit s'ajuster à l'enfant et pas que l'enfant doit s'ajuster aux contraintes du monde adulte. Bon, Montessori a encore moins à voir avec les excès d'éducation positive qui sont décrits dans les vidéos là, qu'on voit circuler. Par exemple, quand une maman invite son enfant à exprimer tout ce qu'il traverse en toutes circonstances, quitte à l'emmener vers l'ingratitude la plus totale. Moi, je pense qu'effectivement, les gens en ont marre, pour une raison très simple, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire les excès d'éducation positive telles qu'elles ont été véhiculées depuis une quinzaine d'années par des influenceurs sans qualification en pédopsychiatrie ne fonctionnent pas. Donc évidemment, il y a un ras-le-bol parce que ce qu'on voit, c'est que les enfants sont pénibles, qu'ils sont malheureux, qui sont insécurisés et qui ne sont pas compatibles avec les contraintes de la vie sociale. Donc je pense que ce ras-le-bol vient aussi d'un constat sociétal, quoi, des profs, des parents et des soignants.
Au-delà donc de la saturation du parent parfait sur les réseaux, mais est-ce qu'au fond, c'est peut-être aussi votre idée, Nadège Rica, est-ce qu'elle n'est pas assez ghetto-souris au fond, Maria Montessori, et ce n'est pas une fausse opposition dont on est en train de parler?
Moi, à mon sens, uniquement à mon sens, je pense que Maria Montessori était complètement ghetto-souris, parce qu'initialement, déjà, elle allait vers les enfants déficients, c'était ça son but d'abord, et puis après, les enfants des rues, là, Casei des Bambini, il me semble qu'on dit comme ça, c'était pour accueillir les enfants...
On est au début du XXe siècle,
oui,
en Italie.
C'était pour accueillir les enfants des rues, c'était pas pour accueillir les enfants des CSP+, et autres bobos et bourgeoisie chers à mon cœur. C'était ça, Maria Montessori, d'abord. Et en plus, je pense qu'il faut pas non plus trop l'idéaliser, parce qu'elle a, comme nous toutes, ses failles et ses angles morts. Faut rappeler aussi que, sauf le respect et l'admiration que je porte à son travail, elle a placé son enfant, elle n'a pas reconnu son enfant, elle l'a placé son propre gosse. Et aujourd'hui, on a tous les réseaux sociaux qui culpabilisent un pan entier de la population dans son éducation au nom de cette dame qui elle-même était en difficulté avec son propre gamin, manifestement.
C'est le récit d'ailleurs qui est porté dans La Nouvelle Femme, le très beau film de Léa Todorov, qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui racontait donc cette vie ambiguë en fait de Maria Montessori. Pour vous, Jessica, quand vous avez voulu mettre en avant cette idée de dédramatiser l'éducation, vous n'attendiez pas à voir des contenus violents apparaître?
Moi, l'idée, c'était de montrer qu'on pouvait éduquer avec fermeté sans tomber dans l'extrême ni la permissivité. C'était ça l'idée. Que j'avais.
La déculpabilisation, c'est au cœur de vos spectacles, Olivia Mour, et de votre livre, oui. Culpa Fuck.
Absolument.
Vous êtes humoriste et vous travaillez là-dessus, la fois pour vous-même et pour les autres parents.
Sur la parentalité, j'ai commencé il y a 13 ans et j'avais créé une page Facebook qui d'ailleurs, c'est ça qui m'a permis de démarrer, qui s'appelait Truc de mère indigne. Et aujourd'hui encore...
Truc de mère indigne, ce serait Ghetto Souris avant l'heure.
Bien sûr, c'était Ghetto Souris il y a 13 ans en fait. C'est pour ça que je trouve ça rigolo de voir arriver ça maintenant. Après, mais c'était déjà une problématique que j'avais, c'était de dire des choses qui étaient marrantes, mais qui quand même, c'était drôle parce qu'on savait qu'a priori j'aimais mes enfants.
Je suis une maman ghetto-souris, bien sûr que si tu m'as manqué de respect et que tu te fais mal, je vais te dire chier.
Alors ça, comment l'analyse la psychothérapeute?
C'est une maman azosori, quoi.
C'est surtout la
misère. Alors la maman azosori, Nadège Rica. Azo, c'est aide sociale à l'enfance, expliquez-nous.
Information préoccupante.
Pour vous, c'est un signalement, là.
En tout cas, petite observation.
Donc vous avez 20 ans de travail, justement, auprès... Enfin, 20 ans de travail de...
Social.
Social, ouais. Ça, vous êtes votre travail social, c'est 20 ans. Exactement, et 10 ans en protection de l'enfance. Donc, comment est-ce que ça résonne, ce que vous entendez là, et ces messages de Ghetto Souris que vous avez vu?
C'est assez brutalisant là, ce qu'elle dit, la maman, mais il faut la voir aussi dans sa vie personnelle, parce qu'il y a aussi, j'imagine, une part de mise en scène quand même. Je pense qu'entre guillemets, ils se chauffent aussi, les parents, devant leur écran, devant leur téléphone.
Oui.
Ça se la raconte peut-être.
Et puis, mais
Olivier
on a
Amour.
Tous croisé dans des TGV des gosses qui courent dans l'allée en faisant... Comme ça dure 10 minutes. Au bout de 10 minutes, le gosse se panne la gueule. tout le wagon pense chai. Et j'y suis quand même allée en disant, ça va mon amour, dis-moi où tu as mal. C'est une dissociation parfois d'être parent, on peut le dire, non? Hein, on est oui, d'accord, une dissociation consciente, mais une dissociation.
Moi, je dis toujours aux jeunes parents, je leur dis bienvenue dans une nouvelle ère où vous allez avoir l'impression d'être déguisé, en fait. Hein. Mm. On se déguise, on a vécu pendant 30 ans d'une certaine façon, et tout à coup, on se voit lever le doigt en l'air, froncer les sourcils et répéter ces mots que nos grands-parents nous adressaient quand on était petits. Attention, si tu continues, tu vas être puni. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai répété? Et on a l'impression, effectivement, de nous dédoubler et que c'est un gag, en fait. Hein.
Donc on est en train de mettre un masque, en fait, de faire une performance de parents autoritaires.
On entre dans une nouvelle ère qui est effectivement celle de la parentalité, de l'éducation d'un autre être humain, quoi. Mais c'est vrai que ça va pas de soi. Hein.
Dans cette trend, donc cette tendance ghetto-souris, on a vu énormément de choses. Donc il y a eu des choses inquiétantes, comme vous disiez, c'est limite signalement aide sociale à l'enfance, à des jéricas, mais des choses en effet aussi très drôles ou déculpabilisantes, notamment qui reviennent beaucoup sur les dîners, la préparation des dîners, la nourriture, etc. Si mon enfant veut manger des chips, ben je lui donne des chips. Alors on est où dans un exemple comme ça, par exemple Caroline Goldman?
Là, il faudrait plutôt poser la question à un nutritionniste. Je suis pas sûre que manger des chips avant le repas ce soit une bonne idée. Je conseille, ça n'a rien à voir. Vous m'avez pas du tout invité pour ça, mais non. J'ai aussi 4 enfants par ailleurs. Les crudités avant le dîner, c'est une excellente idée parce que ça leur fait un plein de vitamines.
Je suis bien d'accord. Moi, je les bourre de tomates cerises, voilà. C'est formidable. Je les truffe à la tomate cerise.
D'accord.
C'est impeccable. Mais, bébé carotte aussi.
Mais on est un peu entre les deux parce que dans Ghetto Souris, il y a ça aussi, non, Jessica French Riviera? Il y a le côté, on se soulage de ne pas avoir la patience de préparer des bons petits plats. Il y a des mamans qui disent, moi, le soir, ça va être un bol de céréales si je ne fais pas le dîner, comme Caramiel, qui est une des vidéos qui a été les plus vues.
Oui, ben, Ghetto Souris, c'est aussi assumer que des fois, on est dépassé, on n'a pas envie, on n'a pas le temps, on a passé une mauvaise journée. Bon, ce soir, on va tous commander une pizza et on est heureux quand même comme ça. En fait, on le fait tous dans nos foyers, mais à cause des vidéos qui pullulent sur les réseaux sociaux avec écrit éducation bienveillante, Montessori, regardez, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, on n'ose plus parler. En tant que parent, on se sent plus légitime à parler en tant que parent. On se sent plus légitime sur quoi faire avec nos enfants. Et donc là, en fait, c'est une reprise de parole et de place en tant que parent de dire « Oui, ce soir, j'ai pas eu le temps de faire à manger, on mange une pizza et c'est pas grave. »
Ben voilà, ça dépend des mots qui sont mis dessus aussi.
J'ai pas eu le temps,
je suis fatiguée. Ça dépend ce que le parent met comme mot sur la situation. Et je pense que ça dépend aussi de la fréquence du...
Vous voulez dire si c'est un bol de chips tous les soirs à la place du dîner, ça peut poser problème.
Oui, c'est ça, je pense.
To be ghetto souris or not to be, voilà la question à laquelle on est confronté via les réseaux. On en reparle sur France Inter juste après Tyler, the Creator et Doichi. We ain't talking to your dumb ass. You could be a millionaire and still be a bum ass, boy. I've been in a dream, I've been on a tick. Okay, look, why I work so hard, my sole profit. Why I can't settle down, I like options. Why I hate small talk, I like topics. How shopping, I'm a pig, I love copping. No BBLs, I like eight cups. Long legs pretty when they wake up. Niggas run they mouth, wanna race up. Everything real here, no lace front. Okay, like girls during December, I slay. And I don't even like girls, bitch, I'm way up too high. Bitch, I'm on my own dick, I don't need your vibes. Fuck them regrets, call them and get all that weight off your chest. Got my brothers here, we the wings. I'm my only girl, but you my favorite. I've been flying high, where's the pavement? But for me, can I get an amen? Oh. Don't stop. I scare this bitch out like balloon. I send this bitch ass to the moon. I'm at that top, ain't no room. Don't stop! I wear a swamp vest. Fly this bitch up in the room, I need a cockpit. I need some Peter for this pussy, they want the crop free. I'm finna air these DL niggas out the closet. I let it in, I let it out. I'm a vibe bitch, but I need that pussy now. If he is gay, then I am gay and we are now. Me and Tyler finna take your bitch down. We, Mel C, keep it cute when you're in my city. I'm by 2 8-cup titties. Don't stop. son dernier album Chromacopia, le rappeur Tyler, The Creator, s'est fait plaisir en invitant les artistes les plus talentueux du moment. On trouve notamment la jeune britannique Lola Young qui cartonne en ce moment avec son titre Phénomène. Messi, encore une ode déculpabilisante. Et puis ce titre Balloon à l'instant avec la nouvelle génie du rap et troisième femme seulement à avoir remporté le Grammy du meilleur album rap, j'ai nommé Doji.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
De la méthode Ghetto Sori, il est question dans un monde nouveau avec l'initiatrice de ce mouvement, Jessica French Riviera. Vous nous disiez que l'idée de lancer le concept de Ghetto Sori vous était venue d'un ras-le-bol. Vous en avez l'impression d'être noyé sous ces injonctions vidéo liées à l'éducation sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a le plus culpabilisé, justement, vous, dans ce que vous avez vu et entendu ?
Je pense que c'était un post sur Instagram dont je me rappelle encore, et je l'ai pas pris personnellement pour moi, mais je l'avais trouvé d'une violence inouïe. C'était quelque chose qui disait du genre « si vous n'êtes pas prêt à mettre votre vie entre parenthèses, ne devenez pas parent ». Et je me suis dit, mais une jeune maman qui est en postpartum, qui lit quelque chose comme ça, mais la pauvre, ça doit être très très violent pour elle. Et je me suis dit, on va faire une parodie et mettre des petites scènes du quotidien en lumière et y ajouter une petite touche d'humour, et ça a bien pris. Et
Caroline Goldman, c'est vrai que pour vous, l'humour, c'est une arme éducative, ça fait partie des piliers de vos préceptes éducatifs.
Absolument, j'avais édité un podcast sur les vertus de l'humour dans l'éducation, et d'ailleurs mes amis qui l'avaient écouté, mes amis psy, m'avaient dit « c'est étonnant que tu ne parles pas des vannes ». Intrafamiliale, parce que je suis une grande, grande praticienne de la vanne. Et mes enfants s'en sont emparés avec délectation. C'est très inspirant hein, comme façon de se rencontrer, quoi, dans le plaisir. Et donc, je leur avais dit, en fait, je n'ose pas pousser les gens à vanner leurs enfants, parce que j'ai peur que ce soit instrumentalisé de façon sadique. Et on doit être très précis quand on parle de ces modalités de partage. Et là, je trouve que Ghetto Sori embarque vraiment, mais métabolise complètement cette affaire de
l'humour,
d'humour sous forme de vanne dans l'éducation.
Donc c'est pas que la déculpabilisation du parent, on va dire, parce qu'il n'y a pas que la maman ghetto souris, mais c'est aussi l'utilisation de l'humour au sein de la famille.
Ça apprend l'humour aux enfants, et ça n'est pas un petit chapitre pour continuer à vivre les 50 prochaines années avec eux. Ça leur apprend à ne pas être susceptible. La susceptibilité, c'est un poison dans l'existence, à tous les âges. Et puis ça rend intelligent. Le plaisir des mots, les tournures d'esprit, le fait d'observer le fonctionnement de l'autre. Pour pouvoir le vanner, il faut bien l'avoir un petit peu observé. Et dernière vertu extraordinaire, c'est que l'agressivité doit circuler entre parents et enfants, mais de façon sublimée, sophistiquée, respectueuse. Je préfère un enfant curieux intellectuellement, créatif et qui utilise l'humour, qu'un quelqu'un qui casse les dents de ses copains ou de ses collègues plus tard.
Alors, j'ai vraiment Olivier des commentaires Moore. Sur les l'humour en famille.
Allez-y, alors vous, on peut déjà dire que vous en avez trois, des enfants, plus deux beaux enfants. Et tout ça, en fait, ça a donné votre premier spectacle, en fait.
Oui, très clairement. Qui s'appelait Mère Indigne. Hein, donc voilà, on a bien compris quel était le point, finalement. En fait, sur l'humour en famille, moi, je l'ai subi et je l'ai exercé. Donc, j'ai pas mal de recul sur le sujet. En fait, pour moi, c'est effectivement un super levier, mais je distingue vraiment l'humour de la moquerie. Parce que la moquerie peut justement être, à mes yeux, vraiment très agressive et très destructrice. Et je l'ai vécu moi-même en tant qu'enfant. Et moi, j'avais des parents qui étaient même pas ghetto sori. J'ai des parents qui étaient pas sori du tout, en fait. Qui étaient ni montés, ni ghetto, ni que dalle. Ils faisaient que ce qu'ils voulaient. Et j'ai subi la moquerie de mes parents. Et ça m'a justement, au contraire, inculqué, en fait, une envie de faire de l'humour chaleureux et rassembleur. C'est-à-dire qu'en même temps, c'était des parents qui n'avaient aucune autodérision. Donc j'ai fait, moi, un parent qui avait beaucoup d'autodérision. C'est-à-dire j'ai très peu vanné mes enfants. En revanche, je me suis beaucoup auto-vannée. Par exemple, crise de colère, rouler par terre dans le salon et tout, je me mettais à faire pareil.
Jessica French Riviera, on va vous écouter dans l'une de vos vidéos. Vous êtes mis en scène, c'est une maman ghetto souris qui rencontre une maman Montessori.
Qu'est-ce que t'as fait, Stanley? Pourquoi tu peux pas faire attention à mes affaires? Regarde la voiture. Sérieux, tu sais combien ça coûte une voiture comme ça?
Excusez-moi.
Quoi?
Excusez-moi. Bonjour. Alors bonjour, je me mets à votre hauteur. Hein? C'est normal de l'engueuler?
Ben, il a abîmé ma voiture, en fait.
Vous êtes une maman ghetto souris?
C'est
qu'est-ce qui s'est passé? T'as été en tempête émotionnelle? C'est pour ça que tu as rayé la voiture? Parce qu'il a rayé la voiture, vous lui parlez comme ça?
Ben oui.
J'étais en train de faire un TikTok avec grain de sarrasin. Ne le filmez pas, s'il vous plaît. Il n'est pas OK.
l'enfant qui s'appelle Graine de Sarrasin. Jessica French Riviera, ça c'est issu d'un un vécu, un recadrage par un parent pro-éducation positive excessif.
Ah oui, je suis tombée face à Patoche la cloche, il s'appelle. Oui, Patoche la cloche avec son fils Graine de Sarrasin. Bah, c'est un copain créateur de contenu qui lui fait beaucoup de vidéos parodiques sur ce qu'on voit et ce qui est appelé sur les réseaux, mais qui ne l'est pas en réalité, hein, méthode Montessori.
Ouais, qui est une caricature.
Il fait beaucoup de parodies et donc du coup, on s'est dit, ce serait chouette de faire des TikTok ensemble. Et on s'est retrouvés la semaine dernière et on a fait 2-3 TikTok et on a bien rigolé.
Alors, il y a cette question quand même qu'on n'a pas évoquée encore ensemble, c'est que dans le terme ghetto story, il y a le mot ghetto. Ça sous-entend quoi? Que l'éducation positive telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est pensée pour des bourgeois? Il y a une affaire entre guillemets classiste là-dessous, Nadia Jerica, puisque c'est un peu vos thématiques à travers vos romans.
Ouais, mes obsessions. Ouais. Oui, je pense qu'il y a quand même quelque chose.
Et votre observation de travail social, en plus, vous connaissez le terrain.
Je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre du classisme là-dedans, parce que déjà, on oublie tout l'aspect marketing de cette histoire de Montessori, quand même. Tout est très payant, tout est tarifé. Les écoles, c'est des écoles privées, comme dirait Renaud, privé de racaille. Déjà, d'une part, c'est pas accessible à tout le monde, Montessori. Et même le matériel Montessori qu'on peut avoir à la maison, il a quand même un coût. Donc déjà, ça prive tout un pan de la population de l'accès à cette modalité d'éducation.
C'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être une condescendance qui a été mal vécue et qui rejaillit dans ces vidéos. C'est peut-être ça qu'on
voit. Ah, dans la réponse de
aussi,
Jessica, par exemple, et de ces...
Ouais.
Oui, je pense que c'est une réponse du berger à la bergère, avec beaucoup d'humour. Et j'ai l'impression que Jessica... rit avec et pas aux dépens d'eux. Et ça, je trouve ça plutôt satisfaisant, plaisant, et très stimulant. Quoi.
Jessica, vous validez?
Sur mon compte TikTok, j'ai eu beaucoup de témoignages de mamans qui essayent d'appliquer l'éducation positive ou des approches pédagogiques Montessori, qui témoignent et qui me disent soit vos vidéos m'ont fait beaucoup rire, soit dans certaines situations, je me reconnais, parce que le mouvement ghetto-souris qu'on a lancé, il ne va pas du tout à contresens de la pédagogie Montessori. C'est complémentaire, ce n'est pas deux choses qui s'opposent. Là, dans la méthode ghetto-souris, on veut juste avoir une approche plus réaliste qui est applicable et inclusive pour tous.
Et plus drôle, bien sûr.
Et on voit qu'en fait, et d'ailleurs, Caramiel qu'on entendait tout à l'heure, elle le dit, tous les parents sont un peu ghetto-souris et un peu Montessori. En fait, c'est un mix des deux. Dans Caroline Goldman, vous n'êtes pas d'accord?
Je trouve que les excès d'éducation positive ont alourdi considérablement les interactions par enfant. Il faut se figurer que depuis 15 ans dans la presse, dans les médias, les parents entendent que dire non à un enfant, c'est abîmer son cerveau. C'est-à-dire, il faut imaginer à quel point ça menote les parents dans leur liberté de ton, leur spontanéité, la circulation d'une agressivité qui serait tout à fait ludique et légère. Du coup, ils trouvent des moyens de ne surtout pas dire non. Du coup, l'enfant prend de plus en plus de place, enfin son désir. Les parents sont écrasés, ça rend tout lourd et on les entend du coup hurler pendant des heures alors que ça aurait pu être réglé par un « Écoute, Elliot, tout ça a l'air très grave, je comprends que tu as envie d'arracher les cheveux de ta sœur, mais pourtant, la loi reste la loi. Dans cette maison, on arrache les cheveux de personne. Donc tu es gentil, tu vas dans ta chambre arracher les cheveux de tes peluches qui n'ont pas de cheveux. » Enfin voilà. Et puis ça s'arrête en fait. Là, ça donne lieu à des conversations qui durent 8 heures où tout le monde est dans un état de drame.
Non, mais en
inutile.
Vrai, Olivia, vous aviez fait d'ailleurs une vanne là-dessus. C'était une méthode qui conseillait, donc est-ce que c'est une caricature de la méthode d'éducation positive, je ne sais pas, qui conseille de ne pas remercier l'enfant, de ne pas le féliciter parce qu'après il croit qu'il va devoir toujours faire tout pour vous.
Oui.
Et vous étiez moqué de ça.
Bah oui, mais parce que en fait, moi je suis pas du tout opposée à l'éducation positive et bienveillante parce que j'aurais bien voulu en bénéficier pour être tout à fait honnête. Donc la question que je voulais poser à Caroline, c'était mais vous croisez vraiment des parents Caroline Goldman qui sont paumés parce que on leur a dit faut pas dire non parce qu'il y a quand même du bon sens. C'est vrai. On leur a dit faut pas dire non, ils disent ah bon faut pas dire non, ah merde alors.
Ah non, seulement dit faut pas dire non, on leur a dit ça va abîmer définitivement le cerveau de votre enfant et pendant 15 ans. personne ne s'est opposé à ce discours dans les médias. C'est-à-dire que tous les soignants se sont tus. C'était absolument lunaire. Et évidemment, ça a porté des préjudices terribles dans nos consultations en pédopsie. Oui, moi, pendant 15 ans, j'ai vu arriver, depuis les 15 dernières années...
Des gens qui n'avaient pas bien assimilé ce qui était présenté.
Des parents souvent blessés. Eux-mêmes par leur scène infantile et qui ont été horrifiés à l'idée de générer la même frustration,
en fait.
Mêmes abus de pouvoir, alors que ça n'a rien à voir. On peut être absolument bienfaisant, aimant, présent, attentif, tendre, câlin, vraiment empathique, stimulant, etc., et dire à l'enfant,
maintenant
tu t'arrêtes et tu vas dans ta chambre.
Mais est-ce que ça, c'est vrai, ça contredit vraiment l'éducation bienveillante ou positive ?
Évidemment pas. L'éducation bienveillante et positive, c'est merveilleux.
Mais en fait, l'éducation bienveillante et positive, elle a un cadre aussi au départ.
Oui, c'est ça. Au départ,
c'est-à-dire parce que d'ailleurs, je crois que c'est important pour vous, Nadège Erika, de distinguer autorité de cadre, parce que cadre, c'est un des piliers fondamentaux de l'éducation positive.
Oui, pour moi, je pense qu'il y a un cadre déjà, c'est sécurisant, ça porte son nom, ça borne, ça, c'est une espèce de soutien, presque des étaux, quoi. Ça étaye une éducation. J'ai toujours peur des dérives autoritaires, même en tant qu'adulte, sur un enfant. Mais un cadre, c'est important. C'est vertigineux de vivre sans cadre. Même adulte, je crois.
Bien sûr. La différence entre l'autorité et l'autoritarisme, c'est la bienveillance. C'est toute la différence. Mais les enfants ne sont pas dupes. Ils savent parfaitement si leur parent est bienveillant ou malveillant dans la mise en place de son autorité.
Et quand et il y a de la bienveillance... Caroline Coleman, c'est qu'il y a très peu de chances qu'on croise des parents, on va dire, malveillants qui seraient, qui seraient avec des manuels d'éducation positive à la main.
Bien sûr.
Ils agissent autrement.
Si, il y a les pervers qui se dissimulent quand même.
Bien sûr.
Cachaient derrière leur bouquin. Et le côté, je suis vraiment quelqu'un de formidable, regardez comme j'élève bien mes enfants. Et les enfants ne bougent pas, et là, c'est un énorme red flag. Quand le gosse ne bouge pas, moi je suis là, il va pas bien lui. Hein.
Et d'un mot, Jessica French Riviera, il y a un psychologue qui a réagi, qui s'appelle Didier Plu, il a parlé de trumpisme éducatif dans la version 2 de Ghetto Montessori, dans ses débordements. Trumpisme éducatif, vous en avez pensé quoi quand vous avez entendu ça?
Pour rien de spécial, moi je me suis dit, je suis juste créatrice de contenu, j'ai fait des vidéos pour rigoler, moi ce que je voulais mettre en avant, c'était encourager à poser des limites claires en respectant les besoins de l'enfant.
Voilà. Faire du Caroline Goldman, en fait. Oui, Nadège Erika.
Mais surtout qu'il me semble qu'on peut tous se souvenir de potes avec qui on allait en vacances qui sont à mort Montessori, éducation positive, tout ça. Mais ils craquent comme nous autres, ils craquent comme tout le monde. Pour moi, c'est des mythosauris. Sauf qu'ils pètent des câbles sur le bord de la piscine et on regrette d'avoir loué cette année avec eux. Et pour moi, c'est des mythosauris, en vrai. Ça n'existe pas. La famille Montessori. Non,
ça dépend surtout de l'état des gens, en vrai. C'est-à-dire que Montessori, pas Montessori, ghettosori, en fait, ça dépend comment les gens se sentent à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a certainement des gens formidables qui font du ghettosori, mais qui, en fait, sont juste très, très, très bien avec leurs enfants et dans des limites normales, et vice-versa.
Et cela dit, il y a peut-être une question quand même de santé publique, puisqu'il y a des cas de burn-out parental.
Absolument.
Qui concernent, d'ailleurs, c'est plutôt deux femmes. Ce sera sur les trois adultes, ce sera deux femmes. Et donc, il y a quand même un phénomène. On recommande dans ce cas-là de retrouver une sorte de bienveillance avec soi et de lâcher l'éducation idéalisée.
Ah oui, non, mais moi, je suis au-delà de lâcher l'éducation idéalisée. C'est-à-dire que moi, je m'offre 3 semaines de vacances par an, toute seule, tous les ans. Et là, je viens de casser l'ambiance dans le studio. Tout le monde me déteste.
Félicitations.
On adore.
On en rêve toutes, surtout.
Oui, c'est ça, je crois que tout le monde en rêve. Et les gens me disent, comment tu fais et tout. Je suis là, je fais. En fait, il y a un géniteur qui se trouve être leur père, et en plus, ils les aiment. Donc finalement, tout ce monde-là se débrouille très très bien.
On a le même feed qui nous demande d'être féministe, mais qui nous demande d'être Montessori, de ne pas lâcher les gosses, mais de ne pas partir en vacances 3 semaines toute seule.
Ouais.
C'est complètement dichotomique, ça rend fou.
Oui, absolument.
Folle, surtout.
Ouais. C'est très oppressant.
Et comment est-ce que vous réagissez d'un mot, puisqu'on parlait de santé publique par rapport à ce phénomène quand même de burn-out parental qui existe. Comment est-ce que vous réagissez aux recommandations qui ont été proposées justement ces derniers jours? C'était suite à des émeutes en 2023 et il y a une commission parentalité qui s'est réunie. Il y a des recommandations, c'est d'épauler davantage des parents vulnérables et restaurer une autorité bienveillante. Caroline Goldman, vous avez lu ces conclusions, c'est quoi une autorité bienveillante?
Ça brasse de l'air.
Mais non, c'est dire non avec le sourire.
Oui, moi, ce que je veux, c'est des propositions extrêmement concrètes, des propositions politiques. Voilà. Moi, les intitulés, c'est formidable, c'est très consensuel, ça met tout le monde d'accord et ça ne donne lieu absolument à aucun changement dans les foyers. Moi, ce que je me suis dit en lisant les conclusions, c'est que d'abord, il ferait mieux de remettre des psychologues dans les CMP, dont les postes ne sont plus pourvus, renouveler les centres médico-psychologiques depuis 15 ans, alors que ça constituait la solution de prise en charge préventive et curative de secteur pour tous les enfants et pour tous les parents. Et j'aimerais bien, je le redis ici, je l'avais dit au micro de France Inter en l'été 2023, j'aimerais bien que soit créé un observatoire scientifique. Vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup de gens, mais qui validerait ou invaliderait les fake news véhiculées par les influenceurs qui ont littéralement pris les fonctions des professionnels depuis 15 ans dans les médias.
Nadège Ricard, vous êtes d'accord? Vous rejoignez le projet de Caroline Gollan? Vous militez à ses côtés?
Ouais, je milite aux côtés de Caroline et surtout, je crains, on parle de la commission,
la commission parentalité.
Ouais, c'est ça, la commission parentalité. J'ai peur que ce soit un effet d'annonce, une vitrine, et qu'on renvoie tout ça vers un numéro vert. Derrière, il y aura trois pauvres opérateurs étudiants complètement paumés qui vont envoyer vers des services qui sont en déficit et absolument de psy et de travailleurs sociaux, etc. Ouais. Et c'est une vitrine.
Voilà. Et votre point de vue aussi, c'est qu'il faut savoir, quoi qu'il arrive par rapport à tous ces contenus et toutes ces injonctions, à différencier en fait les statuts et d'enfants et de famille en fait, parce que là on parle comme si tout était applicable à tous, c'est quand même ça le sujet.
Oui, tout à fait, je pense que de toute manière chaque famille a sa trajectoire, son déterminisme, que ce soit qu'on ait choisi Montessori, Ghettosori ou quoi que ce soit, il y a des choses qu'on peut pas choisir.
Ou Mitosori.
Ou Mitosori, exactement.
Caroline Goldman.
Oui, et surtout ce que la psychanalyse nous enseigne, c'est que chacun entend ce qu'il a envie d'entendre. Donc les messages publics ont une portée tout à fait relative, mais je suis heureuse de voir qu'on va enfin décoller de ces invectives, ces injonctions écrasantes pour notamment les femmes, les mères, et qu'on va remettre un peu d'humour dans l'éducation en étant certain que c'est bon pour les enfants.
Ouais. Olivia Mont, c'est votre créneau là. Oui, je sais, ça parle de ça, votre nouveau spectacle.
Oui, je sais, ça parle beaucoup de ça, parce que j'ai beaucoup pris ce qu'on me reprochait pour dire « Oui, je sais, et ça va pas changer. » Donc voilà, c'est comme ça. Mais en fait, c'est aussi pour dire que quand je dis que ça dépend beaucoup des individus, je voudrais rebondir sur tout ce qui est propositions concrètes. Oui, moi je suis pour que tout le monde ait droit à une psychothérapie de 3 mois au moins tous les 5 ans. C'est-à-dire, en fait, désolé, il y a un contrôle technique. Est-ce qu'on pense vraiment que le cerveau humain, il est moins dangereux qu'un moteur de BMW? Ben non, en vrai. Donc à un moment, faisons ça.
Jessica French Riviera, d'un mot pour conclure, vous préconisez quoi, vous, puisqu'on en est à la liste des courses, là?
Je préconise une approche éducative entre amour, bienveillance et fermeté.
Et un peu de rap.
Et humour.
Amen.
Amen, ouais. On continuera de parler d'enfants en seconde partie d'émission, puisqu'on fera un arrêt sur image sur cette séquence marquante de la semaine. C'est la présence du fils d'Elon Musk, 4 ans, dans le bureau ovale pour une conférence de presse. Et juste après, Camille Yembe sur Inter.
Tu me passerais une cigarette? J'avoue, je fume pas, mais je peux le faire pour toi. C'est mal, j'irai sûrement en enfer. Je sais plus quoi faire pour être la plus stylée ce soir. J'ai enfilé une peau en plastique pour éviter de tout casser encore. Tu reconnais la silhouette? Je change de forme vite, vite pour ressembler à qui? Un jour blonde, un jour brune, un jour populaire. Un jour les traits de mon visage seront-ils symétriques? Je rêve de vivre d'amour et de quête, moi. Ah, je vis la vie d'une autre, c'est dommage. Ah, je rêve de vivre d'amour et de quête, moi. Je vis la vie d'une autre fille, c'est dommage. Ah, j'ai enfilé une peau en plastique.
Après Angèle, Ilona ou encore Luz and the Yakuza, Camille Yembe serait-elle la nouvelle révélation de la scène belge francophone après avoir écrit des textes pour Eva Queen, Tchakola ou encore Stéphie Selma? Elle se lance en solo avec ce premier single, Plastique.
Mathilde Serrel, Un monde nouveau sur France Inter.
Deuxième partie de cette émission avec un zoom. Mardi dernier, alors que Donald Trump parlait aux journalistes dans le bureau ovale, un drôle d'invité s'est présenté devant les caméras, le fils d'Elon Musk, qui a fait du bureau ovale sa salle de jeu. Pour parler de ces images ubuesques, inédites, j'accueille Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de communication à Sciences Po. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans ces images et qu'est-ce que vous pensez qu'il essaye de nous raconter, Elon Musk? Tout est signe, forcément, quand on est en politique.
C'est d'abord des images profondément étranges, où on a un président qui est assis et qui ne dit rien. Elon Musk, qui n'est rien du tout, il n'est pas élu, qui est debout à ses côtés et entre les deux, et qui parle.
Parce que Trump est à son bureau un peu comme un papy qui regarderait la scène.
Un peu comme un il dit rien. Il est assis, mais il dit rien. Et lui, il est habillé en costard, cravate. Voilà, c'est la figure du président. Et il dit rien. Et pendant une conférence de presse, par contre, Musk, qui n'est pas élu, et qui lui, qui n'est rien, est en train de parler avec
des ministres de cette. Donc,
oui,
ce ministère
bien,
d'efficacité gouvernementale.
Il dirige un truc, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais il n'est pas élu. Enfin, il n'a pas à être là. Il n'a pas à être dans le bureau ovale, qui est le bureau du président. Il n'a pas à donner une conférence de presse à cet endroit-là, à la place du président. Et la chose très bizarre, c'est qu'entre les deux, il y a un enfant de 4 ans qui s'appelle X, donc qui, pour simplifier, il a un nom imprononçable, mais on l'appelle X, donc le même nom que la marque du réseau social de son papa, ce qui est quand même un peu étrange aussi. Toute la séquence, c'est une séquence qui est fascinante, quoi.
Voilà. Oui, il est d'abord sur ses épaules, et puis il limite son père, il se met un peu les doigts dans le nez.
Oui, il regarde, pendant que son père parle, il regarde le président d'un air assez mutin. Moi, il me rappelle un peu l'enfant de Mad, pour ceux qui connaissent la culture américaine.
Oui,
enfant avec des taches de rousseur un petit peu insolents. Il regarde le président d'un air très curieux, en disant,
Mad Movies.
Voilà, t'es qui, toi, tu vois? C'est vraiment très, très, très particulier, ouais.
Et ça nous rappelle cette fameuse photo de JFK Jr. qui est installé sous le bureau de son père. Il y a quel effet du coup?
Oui, c'est
entre
ça. Sauf qu'à l'époque, c'était le président, alors qu'Elon Musk, il n'est pas président, il n'a pas été élu. Donc, c'est encore une fois, c'est une appropriation. C'est comme si au fond, le bureau ovale, c'était chez lui. Il est habillé en t-shirt, avec une casquette. Son fils est là, il joue librement. Pour le coup, c'est très, très éducation positive. Personne n'est là pour le restreindre. Le petit fait exactement ce qu'il veut.
Et c'est éducation positive pour Elon Musk aussi.
Alors, c'est éducation
positive. Parce qu'il n'y a pas de limitation du président Trump, d'une certaine manière.
Pas. Oui, c'est ça. Alors, on ne sait pas très bien. C'est un enfant avec son grand-père, ce qui se passe entre Trump et le petit. En même temps, il y a une phase de fuite de Trump. C'est-à-dire que le petit se rapproche, Trump se décale. Le petit s'en va, Trump, du coup, se redécale. C'est comme si, tu vois, il y a une espèce de jeu entre les deux qui est assez bizarre, quoi. Le petit garçon est curieux, mais Trump n'a pas du tout envie de répondre à sa curiosité. Donc, c'est vraiment très particulier, quoi.
Et
ça se passe devant les caméras du monde entier, quand
même. C'est ça. Et il faut rappeler que il y a quand même un enjeu dans cette conférence de presse qui est de présenter l'action de ce fameux ministère d'efficacité gouvernementale, de présenter des coupes budgétaires, de répondre à une fake news sur des préservatifs soi-disant envoyés à Gaza, etc. Donc on est dans un échange aussi avec des journalistes qui attendent des vraies réponses sur des enjeux.
On est dans un moment crucial de l'histoire mondiale. où tout le monde regarde la Maison-Blanche en se disant, est-ce qu'on ne va pas avoir une guerre? Est-ce qu'on ne va pas avoir des gros problèmes? L'intégralité des fonctionnaires américains, plusieurs dizaines de millions de personnes, regardaient la séquence en se demandant s'ils auraient encore leur job demain matin. Il y a eu des coupes tellement brutales que de nombreuses aides sociales se sont arrêtées du jour au lendemain et n'ont pas encore toutes été reprises.
Il y a eu cette arrivée, on sait, des agents de Musk dans les administrations.
Des gamins de 19 ans qui sont allés expliquer à des vieux fonctionnaires blanchis sur le harnais qu'il fallait arrêter maintenant tout de suite.
Et geler les salaires.
Geler les aides sociales. Encore une fois, USAID, qui est le programme d'aide des États-Unis, il aide aussi les fermiers américains à plus de 4 milliards par an quand même, c'est pas rien. Et il aide aussi des enfants à ne pas mourir à l'autre bout du monde de malaria, du VIH, enfin n'a pas contracté le VIH, enfin je veux dire, c'est vraiment très important. Et ce monsieur, qui est responsable de tout ça, est en train de nous expliquer ça tranquillement dans le bureau ovale, avec son gamin à ses pieds, le président à côté qui dit rien. C'est extraordinaire comme séquence.
Et la présence de cet enfant, justement, il a quel rôle? Est-ce qu'il va changer la perception du public dans un sens positif? Est-ce qu'on est là, donc, je parlais au début de l'émission, d'une communication politique qui a utilisé l'enfant dans la sphère privée pour avoir une image comme ça, chaleureuse? Il a quel outil de communication?
Il a trois fonctions, cet enfant. La première fonction, c'est de désacraliser le lieu et de montrer qu'on est dans une prise de pouvoir. C'est chez moi, et je ne vais pas respecter vos codes. Ce sont mes codes, c'est mon fils. Ça, c'est très violent et direct. C'est d'une violence pour Trump absolument inouïe. La deuxième fonction qu'a cet enfant, c'est, alors c'est un peu plus idéologique, on va aller très vite, mais les idéologues du mouvement que porte Elon Musk, qu'on appelle les technobros, c'est Curtis Yarvin, ça va être Peter Thiel, sont des gens pour qui la natalité est extrêmement importante.
Le long-termisme.
Voilà. Elon Musk, il fait des enfants en batterie qu'il n'élève absolument pas, mais il en fait beaucoup. Voilà. Et là, il en a pris un, il l'a mis devant les caméras. C'est un message politique. Faites des enfants. Et pour les femmes, ça signifie moins
pression.
De contraception, pas d'avortement. C'est très concret.
Pour vous. Ouais. Et troisième élément.
Et le troisième élément, c'est que ça présidentialise l'image d'Elon Musk parce qu'il a un enfant, il s'occupe de quelqu'un. Et ça le sort de l'image de ce qu'on appelle les incels, alors c'est les célibataires involontaires. Et ça le sort de l'image finalement asexuée du geek derrière son ordinateur qui regarde des filles à poil. En gros, c'est ça que ça veut dire.
Et il y a quand même aussi un effet positif peut-être pour le public américain.
Alors oui, parce qu'il y a deux types de publics. Ouais. Là, ce que je vous dis, c'est un point de vue étranger, quasiment de gauche pour les États-Unis. Mais il y a son public à lui.
Il y a un côté sympa, je m'occupe
oui,
de mon enfant, je l'emmène partout.
Il y a un public des électeurs d'Elon Musk pas d'Elon Musk précisément, mais de Donald Trump. Vous voyez, c'est ça le danger, on glisse. Le public de Donald Trump, les électeurs, eux, ils trouvent probablement ça très bien. Parce qu'il y a une famille. Il y a un enfant, il y a deux papas certes, mais il y a un enfant, c'est un cadre familial. Les deux montrent qu'ils ne sont pas opposés l'un à l'autre. C'est aussi une réponse à une couverture de Time Magazine qui présentait Elon Musk tout seul derrière son bureau comme le président. Ils répondent, ils disent non.
Il répond à cette image en fait de Time Magazine.
Le président c'est moi, je suis assis. Et il s'assied comme est assis Elon Musk sur la couverture de Time, derrière son bureau. Moi je suis là, je suis le président. Donc, je le rappelle, j'ai pas besoin de parler, je suis le président.
Ça c'est le message de
Trump. Et de l'autre, je collabore avec lui. Et Musk, il a toute sa place, il est là. Il y a un enfant, c'est familial, c'est sympa.
Et il y a l'enfant labrador,
C'est l'enfant labrador, absolument. C'est Belle et Sébastien, quoi.
Olivia Didi Vance, qui est le vice-président, qui était donc le colistier de Trump, lui aussi s'affiche en permanence avec ses enfants.
Oui, lui aussi, il a une histoire un peu différente, mais oui, il veut incarner vraiment il fait des efforts pour incarner vraiment l'Amérique profonde avec toujours ce côté un peu bizarre des incarnations trumpistes, puisqu'il a du eyeliner en permanence. Enfin, il a quand même un style très, très différent, on va dire, d'un vice-président traditionnel, mais il fait beaucoup d'efforts, oui.
Et il y a eu un effet de diversion au final, le résultat politique de cette séquence.
C'est qu'on retient que ça, on retient que la présence de l'enfant, en fait. L'enfant a phagocyté l'image parce qu'il n'a rien à faire là, parce que c'est insolent, parce que c'est incroyable. Et puis il est habillé, vraiment, c'est comme dans Succession, pour ceux qui connaissent cette série, c'est ce qu'on appelle le quiet luxury, c'est-à-dire qu'il faut s'habiller chic, ça veut dire s'habiller dans des couleurs qu'on ne remarque pas trop, il est habillé en beige. Il a une chaîne un peu bizarre en travers du torse, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais bon, voilà. Mais en dehors de ça, il pourrait être président de la République, il est habillé pour, en tout cas, quoi, mais il a 4 ans. Donc bon,
c'est en route.
C'est en route, mais pour lui. Enfin, moi, c'est pour lui, quoi. Comment il va grandir avec ça? Ouais. C'est quand même...
Surtout quand on sait comment a fini le petit Kennedy.
Alors, oui, donc par ça, ailleurs.
C'était enfin, le,
je ne sais pas ça, mais je veux dire, oui, c'est vrai.
Le point de vue de Philippe Moreau-Chevrolet, qui est professeur en communication à la science politique, et le point de vue justement de l'humoriste Olivia Moore, vous entend, comment vous avez réagi à cette séquence?
Oui, c'est ça, pour moi, j'ai vu ça, je fais, c'est l'enfant labrador, ça m'a fait penser au labrador des présidents de la République, vous savez, et celui, il y avait notamment celui de Chirac. Chirac avait appelé son labrador Ducon parce que c'était Giscard d'Estaing qui lui avait offert. Et donc je me suis dit, ils ont mis Ducon sur la photo. Voilà, c'est ce que je me suis dit, c'est terrible. Hein, mais, non, et en fait, et en vrai, et après, mon cœur de mère me fait dire, c'est horrible pour ce gamin, on lui jette un sort en le collant là-dessus.
Ah mais moi, mon fils, je ne l'aurais jamais montré. D'abord, je ne le montre pas sur les réseaux sociaux, pareil, on va être très clair.
Jamais c'est le point de vue du papa,
Papa, moi, je ne montre pas mes enfants sur les réseaux sociaux. Pareil, et lui, il va être détesté par une partie de la population, quand même, à 4 ans, c'est dur.
Il va finir sur un site pédocriminel, surtout.
Oui, aussi.
Dans un deepfake.
Pardon, mais oui.
C'est assez vertigineux. Et donc, Caroline Goldman, comment vous l'analysez, cette image?
Alors, moi, je suis désolée de dire que je ne m'inquiète pas du tout pour cet enfant en particulier, parce que je pense à tous les enfants que Nadège et moi rencontrons dans la vraie vie.
Nadège Erika, qui travaille, qui travaille à l'aide sociale à l'enfance.
Ouais. Beaucoup, beaucoup de vraies raisons d'être malheureux. Je pense, par exemple, qu'il y a toutes les 4 minutes, une fillette qui est excisée dans le monde. Je pense qu'il y a 3 enfants par classe qui sont maltraités violemment en France aujourd'hui. 2 autres qui sont victimes d'agressions sexuelles. Enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment des destins d'enfants dramatiques, tragiques. Donc, j'arrive pas à m'apitoyer sur la vie du petit garçon des Lamennais qui se balade dans la Maison Blanche.
Est-ce qu'on est dans un moment presque ghetto-souris de la part d'Elon Musk?
Non, vitrino-souris, à nouveau. C'est un peu un enfant instrumentalisé. Enfin, beaucoup un enfant. C'est un mythosori.
Il a quand même un père hyper toxique. Caroline, vous êtes d'accord?
Non, mais je n'en sais rien. J'essaie de ne pas faire une interprétation sauvage.
Est-ce que Elon Musk veut bien s'allonger sur le divan?
Ouais, c'est ça. Aucune psychothérapie pour Elon Musk, ça ne ferait pas du mal à ses enfants.
En tout cas, son fils est le bienvenu si jamais il veut traverser l'Atlantique et avoir une consultation avec Caroline Goldman. Merci beaucoup, Philippe Moreau-Chevrolet, professeur à Sciences Po et papa, spécialiste de la communication politique. Merci à Caroline Goldman. Donc, votre livre Guide des parents d'aujourd'hui, c'est chez Flammarion. Faites rire votre enfant une fois par jour. Souvenez-vous. Merci Olivia Moore. Votre spectacle, oui je sais, sur la scène de l'Européen à Paris est en tournée dans toute la France. Grand merci à Nadège Erika pour votre livre Mon Petit, qui est sorti en poche. Je le recommande encore, c'est chez HarperCollins. Et puis chez La Lettre Zola, donc ce nouveau média littéraire, vous publiez un texte sur votre expérience de travailleuse sociale à l'aide sociale à l'enfance. Grand merci à tous et bien sûr aussi à notre amie Jessica French Riviera, qui était en duplex de Nice, l'initiatrice de la tendance Ghetto Souris. Merci à mon équipe, rédaction en chef Redouane Tella, réalisation Amélie Mico, préparation Marion Philippe, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique cette semaine Élise Christophe.